Vous venez d'entendre un extrait d'un opéra Flavio écrit par Georg Friedrich Händel. C'était l'acte 3, interprété par la soprano Christina Hückmann.
Alors, pour bien comprendre la démarche de Legato et la critique à la culture officielle, en tout cas la culture qu'on peut entendre dans les théâtres et les grandes salles de concert et la plupart du temps aussi à la radio, j'aimerais vous lire un petit article que j'ai tiré du journal Legato, où il est dit « Rien n'est plus triste dans l'art que la spécialisation, une sorte d'automutilation qui conduit les instrumentistes, comme le public, à une pratique sectaire, à une approche simplificatrice du phénomène musical. La culture musicale, anémiée, finit par être livrée aux seuls critères du business. On entre dans un cercle vicieux qui est la négation même de la culture. Seules sont programmées les œuvres qui attirent le grand public, et si possible avec des noms prestigieux dont on fait une promotion de type commercial. Le public, à force de n'entendre qu'un DJ, geste du répertoire devient réfractaire à toute nouveauté, même à l'intérieur du répertoire conventionnel. On encourage l'habitude quand la culture devrait être une aventure. » Alors, une autre aventure que Chiara Banchini, tu tentes depuis un bout de temps, pas seulement toi, mais avec d'autres musiciennes et musiciens, c'est de trouver, de rechercher des compositeurs peu connus, peu édités, et surtout des compositrices. Parce qu'on dit souvent qu'il n'y a pas de compositrices, mais en fait, toi, tu en trouves beaucoup.
Ah oui, il y en a plein. C'est ça qui est fou, parce que cette idée aussi de dire il n'y a pas de femmes compositrices, elle est, selon moi, vraiment fausse. Il n'y en a pas parce qu'on ne les connaît pas, et on ne les connaît pas parce qu'elles sont restées dans les bibliothèques, pas éditées ou en tout cas pas jouées. Il y a évidemment maintenant dans la musique contemporaine beaucoup de femmes qui composent et ça, on commence à les entendre. Il y en a eu pendant tout le 18e, il y a, et le 19e aussi. Et j'ai été surtout un peu chercher des femmes dans le 18e et aussi le 17e, surtout italien. Et là, alors, c'est des femmes qui ont été complètement dans l'ombre. Dans le 17e italien, elles étaient souvent confinées dans des couvents. C'était des femmes quand même qui quelque part refusaient, étaient obligées de sortir de la vie normale parce qu'elles voulaient composer et c'était pas admis. Donc elles avaient trouvé une solution, c'était celle d'aller dans des couvents. Elles allaient dans des couvents et là, elles avaient la paix, elles écrivaient. Mais ces compositions sont restées là. Et il faut aussi dire que souvent, comme elles ont dû se retirer parce qu'on les a obligées, elles n'ont pas suivi elles n'ont pas très développé leurs sentiments, aussi leur écriture. Et c'est ça qui différencie surtout, je trouve, les compositions de femmes et d'hommes de ce moment-là. Ce n'est pas dans la qualité, c'est que les hommes sont arrivés à faire des grosses œuvres et les femmes, elles ont plutôt travailler dans la miniature, dans les petites choses.
C'est-à-dire dans des petites formations.
Dans des petites formations, des œuvres plus courtes. Et il y a peu, par exemple, de grands oratorios, de grandes messes, mais il y a beaucoup de cantates, beaucoup de sonates, beaucoup d'œuvres de musique de chambre. Et par exemple, on a fait un concert l'année passée à Genève de musique d'une femme qui s'appelle Maddalena Lombardini, qui était absolument inconnue. On la connaissait, elle, parce que son professeur, qui était un grand maître, lui avait écrit une lettre en lui disant qu'elle était la violoniste la plus douée qu'il avait jamais eue et qui lui conseillait donc de travailler d'une certaine façon. Et cette lettre est arrivée à nous comme enseignement d'un grand maître. Et il y avait ce nom à mon élève, Maddalena Lombardini. Et finalement, on s'est rendu compte qu'elle avait beaucoup composé. Et on a suivi la trajectoire de sa vie, qui est d'ailleurs assez extraordinaire. Et donc, à ce moment-là, j'ai décidé d'inclure dans le concert aussi la trajectoire de sa vie. Et on a demandé à une actrice de lire le texte. Et je crois que les gens ont bien aimé aussi de voir comment la trajectoire d'une femme pouvait influencer la musique qu'elle a composée. Et aussi pour pourquoi à un certain moment elle a arrêté de composer, parce que malheureusement quand même elle était une femme, et c'est devenu très clair au moment où on a commencé à lui faire quelques critiques. Elle a changé complètement d'optique, elle est devenue chanteuse, et là elle a de nouveau fait une grande carrière de chanteuse reconnue par le monde entier. Elle a chanté dans les plus grands théâtres, à Londres, à Saint-Pétersbourg, etc. Et puis, de nouveau, on ne sait pas pourquoi, elle a disparu de tout. Elle est rentrée à Venise, où elle était née, et elle est morte dans l'ombre la plus totale. Plus personne n'en a parlé. Effectivement, elle a fait des choses fantastiques dans sa vie.
Mais c'est un vrai travail de détective que tu fais. Comment est-ce qu'on trouve ces documents? Comment est-ce qu'on va à la recherche de ces compositrices? Alors là, tu as donné un indice dans une lettre. Il y a ce nom, et comment est-ce qu'ensuite on tombe sur les livrets?
Donc là, par exemple, pour Madalena Lombardini, on collaborait avec les Frauenmusik, donc c'est un groupe suisse-allemand, de femmes suisse-allemandes, qui a une musicologue, une journaliste qui aime beaucoup la musique et qui est très, très ouverte à ces choses. Donc elles ont aussi fait des recherches, je ne les ai pas faites toutes seules, parce qu'on passe des jours et des mois dans les bibliothèques. Donc c'est ça aussi qui est intéressant, c'est une collaboration qui est née entre elles font le travail de recherche, elles nous cherchent comme musiciennes et on en discute. Ce spectacle, on l'a monté ensemble, évidemment, on a choisi les textes ensemble et les morceaux ensemble, mais le travail de recherche purement, c'est elles qui l'ont fait, je ne l'ai pas fait.
Mais alors, tu as dit que les compositrices, la plupart de ces compositrices ont écrit des œuvres mineures quant à leur forme. Est-ce qu'elles sont mineures aussi quant à leur apport musical?
Non, c'est vrai que, par exemple, les œuvres de Madalena Lombardini, quand on les écoute, on va écouter là un extrait d'un quatuor, je pense qu'elle n'est absolument pas mineure ou moins bien que, disons, le compositeur Boccherini, qui était absolument contemporain d'elle. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Boccherini, il a composé beaucoup plus, il a composé des centaines d'œuvres, et il était reconnu à son temps. Donc, ça c'est, la musique s'est passée d'une génération à l'autre, on ne l'a jamais oublié, ou peu oublié. Mais ce n'est pas non plus un compositeur majeur. Si, par exemple, à ce moment-là, on prend des compositeurs comme Mozart ou Haydn, qui sont de la même époque. Évidemment, c'est vrai que c'est des personnalités monstrueusement grandes. Donc, c'est ces noms-là que le grand public connaît. Par contre, il y a un grand nombre de compositeurs mineurs. Si je te donne les noms, peut-être ça ne te dit rien. Je ne sais pas, Cambini ou Manfredini ou voilà, Boccherini, dont je viens de parler. Qui sont mineurs, qui ne sont pas mieux, mais qui, eux, sont quand même restés dans la mémoire des musiciens et qui ont été toujours plus ou moins joués au cours du 19e siècle.
Et est-ce que ces compositrices étaient à un moment donné jouées à leur époque? Parce que c'est peut-être ça aussi le problème, si jamais personne n'interprétait leurs œuvres, ne pas entendre sa propre musique jouée, c'est difficile, non?
Non, parce qu'elles n'étaient pas éditées. Et ça, l'édition était un apanage total des hommes. D'ailleurs, Madalena Lombardini, elle a publié ses œuvres sous le nom du mari. Et elle a mis d'abord, les premières œuvres, c'est seulement le nom du mari. Ensuite, il y a les deux noms, mais on sait très bien que c'est elle qui a tout écrit. Donc là, elle a trouvé un moyen. Il y en a d'autres qui se sont aussi des écrivaines. C'est la même chose. Elles ont publié sur leur nom d'homme pour se faire publier. Donc ça aussi, évidemment, si t'es pas publié, ton manuscrit se perd dans les années qui suivent. Et puis voilà, il n'est plus rejoué.
Alors, Madalena Lombardini-Sirmen, c'est le nom de son mari. Effectivement, elle aussi, elle n'a pas été élevée, oui, dans un couvent, si on peut dire, puisque c'est un orphelinat très fermé, ou à Venise, où il y avait toute une tradition musicale, puisque c'était dans ces orphelinats que se créaient les orchestres, des orchestres de filles, entre autres Vivaldi, je crois, en dirigeait un. Et elle a eu énormément de peine, c'est ce que raconte le texte qui accompagnait ce concert, à sortir de ce couvent orphelinat. Pour sortir, il fallait se marier, bien sûr, il fallait encore que le mari soit accepté par le couvent, etc. Donc, effectivement, un lourd voyage pour Madalena, déjà simplement, non seulement pour jouer sa musique, mais déjà pour sortir de son couvent. Alors, on écoute maintenant un quatuor à cordes, c'est le Quatuor à cordes, opus 2, numéro 5 en fa mineur.
Vous êtes toujours dans Remue Ménage, Onde Femme, Radio Zone 93.8 et nous écoutons la musique de la signora Lamborghini,
on a même dit une fois.
Oui, la pauvre. Chiara, aujourd'hui, est-ce que la situation qu'on a décrite pour les compositrices d'hier, est-ce que la situation a changé pour aujourd'hui?
Bon, elle a changé au départ, parce que c'est vrai qu'une femme qui veut faire de la musique, je crois qu'elle ne souffre plus du fait que les femmes pourraient être admises dans un conservatoire pour faire toutes ces études. Là, il n'y a aucun problème. On ne souffre pas non plus, par exemple, dans la musique, à ma connaissance, on ne paye pas moins une femme qu'un homme. Voilà, des choses comme ça, elles sont maintenant assez claires. Maintenant, ce qui est d'un côté incompréhensible, mais de l'autre, je crois que j'arrive assez bien à l'expliquer, c'est que quand on va dans les conservatoires ou dans les concours, il y a un nombre énorme de femmes. Hein. Il y a plus, par exemple, dans les cordes, vu que moi je suis violoniste, donc dans les violonistes, les violoncellistes, etc., il y a plus de femmes que d'hommes qui étudient, il y en a plus qui font des diplômes, et il y en a beaucoup plus qui ont des premiers prix de concours. Hein. Donc, elles sont en fait en majorité maintenant par rapport aux hommes. Et puis quand on voit dans la vie courante, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est le contraire. Je ne sais pas, on regarde. Ben, il y a encore des orchestres où les femmes ne sont pas admises, ça existe encore, mais ça laissons-les. Donc, à Berlin ou à Vienne, c'est vraiment assez catastrophique. Tant pis pour eux. Il y en a d'autres où cette discrimination n'est plus faite du tout. Seulement, on demande, pour faire une carrière de musicien, je crois qu'on demande à une femme d'être complètement libre. C'est-à-dire, on n'a pas d'horaire, hein, on voyage, on joue la nuit. Donc, selon moi, c'est au moment où la femme commence à faire des enfants, ne peut plus, sauf si elle s'aménage quelque chose d'extraordinaire avec un mari à la maison qui lui garde ses enfants, ou même elle n'aura pas envie, parce qu'on fait des enfants, on a envie de s'en occuper. Donc, et là, je crois que ça devient assez tragique, parce que les femmes, à un certain moment, à 30 ans, alors qu'elles ont fait des carrières éblouissantes, elles arrêtent. Elles disparaissent, elles font des choses plus petites, peut-être elles font des petits groupes de musique de chambre dans leur ville, elles cherchent des choses pour pas trop. Mais les orchestres qui font des tournées pendant des mois, elles sont pleines d'hommes ou des jeunes, des femmes jeunes, maintenant il y en a quand même pas mal, des femmes jeunes qui n'ont pas encore d'enfants ni de mari et qui donc peuvent se permettre de fermer leur maison pendant un mois et de partir. Alors que les hommes, ils ont effectivement tous des femmes à la maison avec leurs enfants qu'ils adorent. D'ailleurs, hein, mon enfant, je lui téléphone ce soir. mais évidemment qu'il y a leur femme qui est là. Donc ça, je pense, on ne peut pas l'éviter. D'autre part, je crois qu'on y gagne aussi. On n'y perd pas seulement à faire des enfants. Et c'est aussi une chose importante que nous on vit et à laquelle je tiens beaucoup. Mais c'est vrai que, par exemple, le samedi passé, j'avais un concert en Suisse allemande, et là, ils ont fait, en fait, un espèce de marathon. C'était à peu près 6 heures de musique. Ils ont fait toutes les sonates de Beethoven avec, il y en a 10, avec 10 groupes. Hein. Donc, c'est toutes des sonates pour violon et piano. Et je me suis rendu compte que dans les 10, donc il y avait 10 violonistes et 10 pianistes. Dans les 10 violonistes, il y avait une seule femme, et c'était moi, alors qu'effectivement, je crois qu'en Suisse, il y a au moins autant de femmes et d'hommes qui peuvent jouer bien les sonates de Beethoven. Et dans les pianistes, il y avait 2 femmes. Donc sur 20 musiciens, il y avait 3 femmes et 17 hommes, ce qui ne correspond à rien. Hein, et ces 2 femmes étaient des Japonais, deux femmes japonaises qui avaient l'air d'être en fait l'accompagnatrice ou la femme du monsieur qui jouait du violon. Donc on voyait très bien qu'ils étaient amenés, ils avaient amené leur femme. Non, c'est moi, j'étais, quand je ne m'étais pas rendu compte, je vois, et c'était en regardant les photos que j'ai vu que tout à coup, il y avait ma photo au milieu. Et je me suis dit, mais on n'en est pas sorti de l'auberge, même à ce niveau-là. Ça veut dire que voilà, il y a un clivage qui est toujours là et que, contre lequel je pense qu'on n'arrivera pas à changer, sauf si voilà, on va trouver des pensions, des hommes qui s'occupent du ménage et qui sont payés pour ça. Quoi. Et
les femmes... La même question que pour toutes les femmes qui choisissent de travailler, quoi, finalement.
Exactement. Là, je crois que voilà. C'est pour tous pareil, toutes pareilles.
Bon, en tout cas, il y a cette tentative très intéressante en Suisse de ce groupe, là, le Frauenforum, de faire connaître la musique des femmes. Donc, elle lance entre autres un festival qui a déjà commencé à Berne. Ça s'appelle Frauen sitzen tone, ça veut dire, Catherine?
Je dirais les femmes proposent ou imposent leur son, leur tonalité,
leur composition.
Alors c'est effectivement...
Pas seulement, parce qu'il y a aussi des femmes interprètes. Ouais. Il n'y a pas que des compositions de femmes, mais c'est mélangé. Donc il y a beaucoup, beaucoup de compositions de femmes, où tous les programmes où on mélange femmes et hommes, mais il y a au moins une femme compositrice, et c'est souvent, ou presque toujours, je crois ça, c'est des femmes qui jouent.
Alors effectivement, on passe par toutes les périodes. C'est pas uniquement la musique contemporaine où tu l'as dit. Là, les femmes se sont fait une place. Il y a la musique déjà, par exemple, le 10 novembre, c'est un grand concert romantique puisqu'on pourra écouter Clara Schumann, Fanny Mendelssohn, Sofia Gubandulina.
Gubandulina,
ça c'est une contemporaine, etc. Donc une tentative. De faire connaître cette musique, de montrer effectivement que les femmes compositrices ont toujours existé. Alors moi, j'aimerais juste parler d'une compositrice dont on parle beaucoup, qui est maintenant très à la mode, qui s'appelle Hildegard von Bingen, qui a vécu au XIe siècle, et qui était une nonne, et qui a là vraiment, on peut dire, révolutionné la musique.
Oui, donc c'est effectivement pour cette période-là, c'est en absolu la seule femme qu'on connaisse qui a fait, elle, une très grande œuvre. Voilà, avant, je parlais de Mozart ou de Beethoven ou ces gros compositeur immense, eh bien, elle a réussi à faire ça. Elle a fait vraiment des compositions qui ont fait très innovatrices pour son époque. Donc, elle était à l'avant-garde totalement, contrairement aussi à ce que je disais, où les femmes souvent étaient un peu à l'arrière-garde par leur position de femme. Et elle, et en plus, c'est absolument extraordinaire ce qu'elle a écrit. Et elle a fait des grandes œuvres. Elle a vécu toute sa vie au couvent. Je ne sais pas si elle est devenue sainte. Tu disais qu'elle a été sainte.
En tout cas, elle était donc la mère supérieure de ce couvent. Et je crois bien qu'elle est devenue sainte, qu'elle a été sanctifiée. Je ne suis pas sûre, je ne suis pas une experte dans la question.
Mais c'est possible parce qu'elle a loué Dieu pendant toute sa vie en écrivant ses œuvres. Mais là, c'est vraiment effectivement la seule femme, je crois, qui était aussi... Peut-être qu'il y en a d'autres. Hein. On va peut-être en découvrir une deuxième de cette envergure-là. Mais on n'en a jamais parlé jusqu'à il y a quelques années. Et puis du coup...
Parce qu'elle aussi, disons, quand tu dis qu'elle était... C'était une femme d'une grande envergure, mais elle n'a été... disons, les disques d'Hildegard de von Bingen sont récents.
Ah, elle a été complètement oubliée pendant 8 siècles, 9 siècles. Et effectivement, depuis, je ne sais pas quel est le musicologue ou la musicologue qui l'a découverte, mais depuis ce moment-là, effectivement, elle est beaucoup enregistrée, beaucoup jouée.
Alors, pour en revenir à Frauenmusik, donc il y a ce festival qui commence à Berne, ça se passe à la Villa Bernau, avec donc le 10 novembre à 16h30, le premier concert, et puis il y aura un concert chaque mois, mais on vous en reparlera dans le programme de la pleine lune. Mais le Frauen Forum fait également un petit bulletin où il recense tous les concerts de compositrices ou de musiciennes. Alors là, j'ai 6 pages pleines, donc en fait il y a en Suisse en tout cas un terreau fertile pour les compositrices et pour les musiciennes.
Oui, et non seulement, mais justement on a une réunion au début du mois de septembre. Il y a une énorme bibliothèque de musique de femmes, une collection d'œuvres de femmes qui était en train de se perdre complètement, qui vient d'Allemagne, et donc c'était assez fantastique. On a fait un groupe et on est en train vraiment de trouver l'argent, la bibliothèque, etc., pour réussir à garder. Sinon, voilà, c'était de nouveau toute une collection qui se serait éparpillée dans le monde. Et là, par exemple, je trouve qu'elles sont vraiment très actives et elles font des émissions de radio très souvent aussi. Il y a une journaliste là, donc, qui connaît très très bien la musique et qui travaille bien avec ça.
Alors, on peut s'abonner à ce FMF, Frauenmusik Forum, et on reçoit donc, si on est abonné, on reçoit le newsletter, et elles font également un journal qui s'appelle le Klingklong, qui est bilingue, allemand-français. Alors, si ça vous intéresse, vous nous téléphonez au 50 40 51 41 pour avoir les informations sur cette organisation. Thank you.
Vous écoutez Antonio Vivaldi, interprété par l'ensemble 415. Dans quelques instants, nous retrouvons Chiara Banchini et Viviane.